Bien, bonjour à tout le monde, je souhaite à tous un excellent sabbat. J'ai lu l'histoire récemment d'un garçon qui regardait travailler un pasteur qui était dans son jardin. Il construisait un support en bois pour une plante grimpante. Alors le pasteur sciait, martelait, souvent sur une échelle, parfois dans des positions un peu difficiles. Le garçon continuait de le regarder fixement. Le pasteur pensait qu'après un moment il partirait, mais non, il est resté, continuer de regarder. Finalement, content qu'on admire son travail, il demandait au garçon, « Alors jeune homme, tu essaies d'apprendre un peu de jardinage ?»« Non, » a répliqué le garçon, « je veux juste savoir ce que dit un pasteur quand il tape son pouce, sa pousse avec un marteau. » Comme quoi son exemple aurait pu être très important. Nos exemples sont importants. C'est une façon de partager notre espoir avec d'autres personnes, quand ils nous regardent pour voir comment nous vivre, notre joie de vivre, notre confiance dans la vie. Tout cela peut avoir un impact profond sur d'autres personnes. C'est une façon, Dieu peut se servir même de nos exemples, pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre, les attirer vers la vérité. Nos exemples sont très importants. Et à différents stages dans la vie, nous avons des capacités différentes et des possibilités différentes également. Quand nous sommes plutôt jeunes, nous avons plus d'énergie, plus de force. Quand nous devenons plus âgés, nous avons plus d'expérience et donc on espère plus de sagesse, plus de savoir-vivre. Dans l'Église, nous le savons puisque la Bible nous le dit, nous formons un seul corps. Nous devons donc chacun accomplir nos tâches respectives selon notre tranche d'âge et selon nos capacités pour rendre le corps de Christ plus fort et plus efficace. Notre exemple va devenir de plus en plus important avec le temps qui passe, plus nous nous rapprochons du temps de la fin. Alors aujourd'hui, posons la question, comment faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Homme ou femme jeune? Homme ou femme plutôt âgé, jeune couple marié, homme ou femme célibataire, adolescent, qu'est-ce que Dieu nous révèle dans sa parole à propos de nos responsabilités à différentes phases ou stades de la vie? Bien, je vous invite à prendre Tite chapitre 2, Tite chapitre 2, l'épître de Paul à Tite, chapitre 2 à partir du verset 1. Donc Tite chapitre 2, verset 1. Paul, justement, va s'adresser à ces questions de tranche d'âge, de responsabilités variées et différentes. Tite, chapitre 2, verset 1. « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. » Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Alors, comme nous avons pu le voir, il y a différentes responsabilités qui sont soulignées aux membres de l'Église dans différentes phases de la vie. Alors, commençons par des hommes âgés ou vieillards, comme M. Segond l'a traduit ici. En fait, vieillard, ça veut dire simplement des hommes d'âge mûr. On ne vivait pas aussi longtemps à cette période-là que nous le faisons habituellement aujourd'hui. selon un livre intitulé « L'expérience de la vieillesse dans Rome antique » par Karen Cocaine, on mourait souvent à cette époque-là à 50 ans. Et encore plus souvent entre 50 et 55 ans, c'était la durée attendue de la vie. Donc déjà à 40 ans, on pouvait se considérer comme ayant l'âge mûr, comme un vieillard, pour reprendre le terme qui est mentionné ici. Et 6 choses sont mentionnées particulièrement pour les hommes d'âge mûr. Ils doivent être sobres. Littéralement, le mot grec veut dire « s'abstenir de vin ». Mais, disons, une signification plus usuelle serait d'être clair d'esprit. Être clair dans sa tête à tout moment. Ça veut dire ne pas abuser de l'alcool ou toute autre chose qui pourrait gêner la raison, gêner la réflexion. Qu'est-ce qui pourrait gêner notre réflexion à part un abus d'alcool? Eh bien, une chose qui arrive assez souvent avec les hommes en particulier, c'est de s'endurcir dans ses opinions ou dans ses avis. C'est comme ça, je le vois comme ça, et je veux qu'on accepte que c'est comme ça. Ça peut interférer avec notre raison ou avec notre réflexion. D'avoir de fortes opinions qui, en fait, dans notre esprit deviennent les faits, quand en réalité ce n'est peut-être pas le cas. Donc, sobre. Deuxièmement, il faut être honnête. Honnête, littéralement, c'est, dans le grec, méritant le respect. Un homme doit mériter le respect qui lui est dû, mais on doit quand même le mériter. Une dignité personnelle, un certain sérieux ou gravitas dans ses démarches qui invite l'honneur et le respect des personnes autour. Ça, c'est quelque chose qu'un homme d'âge mûr devrait avoir. Il doit être modéré. Modéré, ça veut dire la maîtrise de soi. La maîtrise de soi dans la pensée, la maîtrise de soi dans le jugement, et la maîtrise de soi dans ses faits et gestes. Modéré, la maîtrise de soi. Il doit être ensuite saint dans la foi. Dans la foi, ça veut dire dans la doctrine, dans les enseignements de base dans la Bible, on doit comprendre ce que la Bible dit, quel doit être notre comportement. Mais saint dans la foi veut dire aussi dans notre confiance en Dieu, vécue au jour le jour. Nous montrons par notre comportement que nous croyons vraiment que Dieu est maître de nos vies et que nos vies sont entre ses mains. Nous pouvons avoir cette confiance, courage et confiance dans la vie. Saint dans l'amour, ça veut dire mûr, pas égoïste, pas vengeur, pas colérique, pas critique vis-à-vis d'autres personnes. Quand on est critique ou colérique, c'est plutôt un manque d'amour pour d'autres personnes. Et ça, c'est une chose que nous voulons être, saints dans l'amour, l'amour divin, le reflet de l'amour que Dieu a pour nous. Et puis, sixièmement, saint dans la patience. La patience, ça veut dire l'amour dans la durée, l'amour qui dure, saint dans la patience. Une persévérance qui supporte les difficultés, les contretemps, les douleurs, les afflictions de la vie qui arrivent de plus en plus nous avançons dans l'âge, dans la vie. L'endurance, un exemple de maturité. Voilà différents éléments qui sont mentionnés, en particulier pour les hommes d'âge mûr. Proverbes chapitre, vous pouvez peut-être mettre le ruban de votre Bible dans Tite chapitre 2, je vais le faire, puisque nous allons revenir. Mais prenons Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16, verset 31. Proverbes chapitre 16, verset 31. Dans Proverbes 16, 31, nous lisons « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve, cette couronne d'honneur. » Autrement dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur si nous sommes dans le chemin de la justice. Parce que c'est seulement dans le chemin de la justice qu'on trouve cette couronne d'honneur. L'âge apporte l'honneur Si l'exemple est bon, si la sagesse y est, si on profite bien de l'expérience de la vie pour s'améliorer et témoigner un bon exemple vis-à-vis d'autres personnes. Je suis certain que vous avez connu des hommes d'âge mûr qui ne pouvaient pas s'empêcher de les respecter. Ils le méritaient par leur vie. Probablement, vous pouvez aussi penser à des hommes arrivés à l'âge mûr, mais qui étaient grincheux ou qui ne montraient pas un très bon exemple. Et là, la gloire n'y était pas forcément. Ce n'étaient pas des hommes pour qui on avait énormément de respect à cause de l'exemple qu'ils montraient. Ça devrait être le cas que quand nous arrivons à l'âge mûr, on devrait mériter une certaine honneur, mais seulement si nous sommes dans le bon chemin, à cause de l'exemple que nous montrons. Prenons quelques exemples qui nous sont donnés dans la Bible. Josué chapitre 14. Josué 14. Nous avons deux excellents exemples ici de personnes, d'hommes, qui vers la fin de leur vie ont témoigné un excellent exemple. Ils ont montré un excellent exemple et ils méritaient et ils recevaient l'honneur. Ils recevaient l'honneur, même, on peut dire, même la gloire. Josué chapitre 14, verset 6. C'est l'exemple de Caleb ici. Josué 14, verset 6. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, lui dit, « Tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien, à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères, qui étaient montés avec moi, découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. » Donc, il était un homme fort âgé, surtout pour l'époque. « Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans, je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouva des Anakim, des géants, et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jephunné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était un homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Ça, c'est un exemple inspirant. 85 ans. Il demandait à cet âge-là une tâche très difficile. Caleb se porte volontaire pour aller chasser les gens du pays comme l'Éternel avait promis. Il a accepté cela. Et on voit par cet exemple, on voit par ce qui est dit ici, le genre d'homme que Caleb était. Il était un homme pieux qui obéissait très strictement à ce que Dieu avait dit. Et il s'est montré courageux également. On peut imaginer que d'autres hommes suivaient Caleb très facilement. On suit un exemple comme cela, un exemple très inspirant. Quelques pages après, nous avons l'exemple de Josué et son impact sur les enfants d'Israël. Josué, chapitre 24, verset 1, vers la fin de sa vie. Josué, chapitre 24, verset 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors au peuple, et il fait une espèce de discours d'adieu, il sait qu'il est vers la fin de sa vie, descendons au verset 14, on ne va pas lire tout son discours, mais au verset 14, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'était son exemple de fidélité envers Dieu. Et nous voyons l'impact qu'il a eu sur Israël au verset 31. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Il a eu un impact sur Israël, son exemple était efficace pendant toute sa vie et pendant les vies de ceux qui ont survécu à Josué, les chefs en Israël de la génération suivante. Et en grande partie, c'était à cause de son exemple. Josué, dans sa vieillesse, voilà la force d'un bon exemple d'un homme d'âge mûr qui a trouvé cet honneur et qui est respecté et honoré par ceux qui l'entourent. Ça, c'est un exemple que nous voulons émuler. Pour revenir maintenant à Tite chapitre 2, nous arrivons aux femmes âgées. Verset 3 dit que les femmes âgées doivent aussi, donc aussi ça veut dire ce qui était dit pour les hommes âgés, doivent être appliqués également à l'exemple des femmes âgées. Évidemment, il y aurait quelques différences dans l'application, mais les mêmes traits de caractère devraient être là. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, être retenues, etc. Donc, les femmes âgées aussi. Tout ce qui est applicable chez les hommes âgés doit se trouver également chez les femmes âgées. Le même genre de comportement qui s'applique à leur situation dans la vie. L'extérieur qui convient à la sainteté. La tenue vestimentaire, sa façon de se comporter, la politesse extérieure qui convient à la sainteté. La version synodale dit que les femmes âgées aient un maintien empreint de sainteté. Et la version Darby le traduit de même que les femmes âgées soient, dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes. Ça, c'est la version Darby. Elles doivent montrer qu'elles considèrent la vie comme consacrée à Dieu dans tous ses aspects. Ça doit se voir par l'exemple. Il ne doit pas avoir de commérage. Et ça peut être un point faible chez les femmes quand on avance en âge, de vouloir raconter ce qui se passe dans la vie des autres, surtout si ce n'est pas positif. Ça peut être une tentation, un point faible. Il faut aussi faire attention à l'abus d'alcool. Ça, c'est peut-être un peu plus facile, puisque Dieu le fait mentionner ici. Ça peut être un point faible, plus on avance dans la vie également. Donc, on doit faire attention à cela. Et puis, les femmes âgées ont un rôle d'instruction très important dans le foyer. Exemple et instruction. Montrer comment faire aux jeunes femmes. Donner de sages conseils pour les aider, pas les corriger, mais les encourager dans la bonne direction. Un exemple, un très bon exemple de cela serait Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait jouer un rôle très important dans le plan de Dieu. Jésus a dit à son sujet, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Il avait un rôle très important à jouer. Alors, quelle sorte de parents Dieu cherchait-il pour donner la vie à Jean-Baptiste? Ça, nous trouvons dans Luc chapitre 1, l'évangile de Luc chapitre 1, à partir du verset 5. Luc chapitre 1, verset 5. Luc 1, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Tu lui donneras le nom de Jean. Elle montrait un très bon exemple de femme âgée. Elle faisait très attention d'observer d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Elle était vraiment une femme exemplaire, et Dieu l'a choisie pour être la mère de Jean-Baptiste, qui allait jouer un rôle très important. Dieu l'a choisie pour une responsabilité toute particulière. Elle était connue pour cela. Il fallait que Jean-Baptiste soit élevé dans la crainte du Seigneur pour pouvoir accomplir ses fonctions, les fonctions que Dieu allait lui attribuer. Et il a choisi Élisabeth plutôt pour devenir sa mère. Nous avons un autre exemple dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Une femme âgée qui a montré un excellent exemple. Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle était connue pour cela. Elle avait la réputation de faire des bonnes œuvres autour d'elle et de donner des aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et on lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Elle s'occupait tout particulièrement des femmes encore plus âgées, des veuves. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corrailleur nommé Simon. Dieu et tout le monde remarquent le genre d'exemple qui est montré par Tabitha Dorcas. Et il remarque les bons exemples des femmes d'âge mûr dans son Église encore aujourd'hui. Si les gens le remarquent, Dieu le remarque encore plus. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle avait cousu beaucoup de vêtements qu'elle avait présentés, qu'elle avait donnés aux veuves. J'ai connu une vieille dame dans l'État de Missouri aux États-Unis qui tricotait des chaussons. La moitié de la congrégation de Saint-Louis avait des chaussons qui avaient été tricotées par cette femme. C'était son passe-temps tous les jours à être utile aux autres. Et moi aussi, j'ai eu une paire de chaussons qu'elle avait tricotées. Ça gardait les pieds très chauds en hiver, c'était formidable. Et elle avait la réputation d'être un peu comme Dorcas. Elle fabriquait des vêtements pour les partager avec d'autres personnes. Voilà quelques exemples de femmes d'âge mûr qui étaient exemplaires dans leur temps, à leur époque, et que Dieu avait noté. Dieu a pris note. Je pense que si Tabitha n'avait pas une telle réputation, probablement elle n'aurait pas été ressuscitée. Ça ne se passait pas à chaque fois qu'une vieille dame mourait dans l'Église au premier siècle. Mais son exemple sortait de l'ordinaire à cause de la bonté qu'elle exerçait. Revenons maintenant dans Tite pour voir ce qui est dit à propos des jeunes femmes. Tite chapitre 2, verset 4, « Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à, voilà la responsabilité des jeunes femmes, aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. » Aimer son mari. De nos jours, ça peut paraître un peu étrange parce que nous nous marions par amour. Normalement, c'est les individus qui se choisissent pour se marier. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. C'est souvent les parents qui arrangeaient les mariages. Et on pouvait se trouver avec un mari pour qui on n'avait pas une forte amour. C'était la responsabilité des jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ça nécessitait un effort. Encore aujourd'hui, quand nous choisissons nos propres conjoints, parfois, il faut un effort pour montrer cet amour. Ça aurait encore plus été le cas au premier siècle. Sept choses sont mentionnées. Aimer son mari, aimer ses enfants, et puis comment se comporter. Retenue, la version synodale dit modeste. Sage, dans la version Darby, qu'elle soit sage. Et au lieu de chaste, Darby, mais pur. Donc, c'est d'autres façons de traduire ces mots du grec. Elles doivent apprendre comment s'occuper des soins domestiques. Et ce sont des choses que les plus jeunes peuvent apprendre des femmes plus âgées, que ce soit la cuisine, la tenue de le foyer, la maison, etc. Maintenant, de nos jours, à cause de la précarité d'emploi ou des besoins pressants dans les finances, parfois, l'épouse travaille. Et si c'est le cas aujourd'hui, il ne faut pas se sentir coupable, il n'y a rien de mal à faire ça. Mais, de même, il ne faut pas se sentir amoindri si on est femme au foyer. Il n'y a pas de travail plus important que de bien élever les enfants. C'est dommage, mais la position de femme au foyer n'est plus aussi respectée qu'elle devrait être. C'est un métier tout à fait honorable d'être femme au foyer. Le papa est le chef de la famille, la Bible rend cela clair, mais le foyer gravite autour de la maman. Elle est le centre de la vie familiale et le foyer. Elle prépare, éduque la génération future. Elle doit montrer un bon exemple aux enfants, puisque c'est ça la façon la plus efficace d'apprendre, c'est de regarder comment ça se fait. Il faut enseigner aussi par des paroles, mais c'est par l'exemple que c'est le plus efficace. Nous ne devons pas perdre cette compréhension de l'importance d'être femme au foyer. Ça, c'est un métier tout à fait honorable. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 14, 1 Timothée chapitre 5, verset 14, Paul donne d'autres instructions à Timothée concernant les jeunes femmes. « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves qui les assistent, que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. » Je veux que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles donnent à l'adversaire aucune occasion de médire à cause de leur comportement. L'importance de la famille. On ne devrait rien faire dans notre comportement qui serait choquant pour la société, pour donner bonne réputation à l'Église de Dieu, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée, Paul a dit. Ça peut être le cas si on manque à ses responsabilités vis-à-vis de nos familles. Ça, c'est pour les papas comme pour les mamans. Il n'y a aucune justification d'avoir une vie qui gêne le message ou la propagation de la parole de Dieu. Prenons un exemple de l'Ancien Testament d'une jeune femme exemplaire, Genèse 24. Genèse 24. Verset 1. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Et le serviteur part accomplir cette mission importante. Verset 10 du même chapitre, Genèse 24, verset 10. « Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nahor, et il fit reposer ses chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortaient celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive », et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celui que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit la cruche et remonta. Le Seigneur courut au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et les chameaux peuvent boire de l'eau, hein, surtout après un long voyage, des litres et des litres. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous ses chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage, ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-sicle et deux bracelets du poids de 10 sicles et il lui dit, « De qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Il y a dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nahor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » C'était vraiment une réponse à sa prière. Le serviteur voulait une bonne épouse pour le fils de son maître. Il voulait trouver une jeune femme polie, respectueuse, travailleuse, et il a vu cela dans l'exemple de Rebecca. Elle était travailleuse, elle se portait volontaire de puiser assez d'eau pour ses chameaux, pour un homme qu'elle ne connaissait pas encore. Elle montrait vraiment un excellent exemple, le serviteur était étonné même, d'avoir une réponse si claire à sa prière. la main de Dieu était évidente. Évidemment, nous pouvons prendre l'exemple de la femme de Proverbes chapitre 31, que nous connaissons bien. Il y a toutes sortes de qualités qui sont mentionnées pour cette femme exemplaire, probablement plutôt une jeune femme. Et nous avons d'autres exemples dans la Bible aussi. Regardons l'exemple d'Abigail dans 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25. Verset 2. Alors, c'est pendant le temps où David est exilé, on peut le décrire comme cela. 1 Samuel chapitre 25, verset 2. Il y avait à Maon un homme fort, riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cette femme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Et tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te diront que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de leur maître, d'auprès de leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Très rude, un homme de caractère très difficile. Les gens de David rebroussèrent chemin, et ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée, et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à la suite, et il en resta 200 près des bagages. Il allait en finir avec Nabal. Verset 23. Abigail intervient. Lorsqu'elle aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, il dit « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivante, et que ton âme est vivante, que l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soient comme Nabal. Accepte ce présent comme ta servante apporte que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. » Elle est intervenue pour empêcher vraiment une catastrophe. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en soi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée par le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de sa fronde l'âme de tes ennemis. » Et elle continue comme cela. Verset 32 maintenant. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu. toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, qui as retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivante. Si tu ne l'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. » David prit de la main d'Abigaïl ce qu'il lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Et finalement, vous connaissez le reste de l'exemple, Nabal tombe mort, puni pour sa méchanceté et Abigaïl devient une des épouses de David par la suite. Un très bon exemple de bon sens, de sagesse, de douceur, elle savait bien se comporter. Nous avons l'autre exemple intéressant dans Luc chapitre 1, où nous étions tout à l'heure. Luc chapitre 1, nous avons un exemple d'une jeune femme qui s'est très bien comportée dans la foi et la fidélité à Dieu. Luc chapitre 1, nous avons déjà lu un petit peu à propos de l'exemple de Zacharie, comment ils étaient exemplaires. Alors, quand l'ange lui annonce que sa femme va enfanter un garçon, verset 18, Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en l'âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Ça devrait suffire, autrement dit. « Voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Donc, c'était un signe qu'il avait demandé, mais une punition également, un signe un peu négatif. Il devait rester muet jusqu'au moment quand ils vont nommer cet enfant Jean. Mais quand nous allons un peu plus loin, verset 26, dans le même chapitre, nous avons l'exemple de Marie. L'ange lui a paru pour lui expliquer ce qui allait arriver et elle n'a pas douté. Elle n'a pas douté. Verset 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira dans son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Et l'ange le quitta. Verset 45 maintenant. « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses lui ont été dites de la part du Seigneur, auront leur accomplissement. » Zacharie n'a pas cru, il doutait. Et Marie, en revanche, a une foi plus forte. Elle a accepté. Elle a accepté une chose qui devait être impossible. Tout comme ça semblait impossible à Zacharie que sa femme puisse enfanter, eh bien, ça semblait, comment est-ce que Marie pouvait avoir d'enfants sans avoir connu un homme? C'était par la puissance de Dieu. Elle a cru. Cette jeune femme, presque jeune fille, a montré plus de foi que cet homme qui était de la descendance de Aaron, qui était prêtre dans le système que Dieu avait établi. Il aurait dû avoir une foi plus forte. Et c'est elle qui a montré l'exemple. On peut montrer des exemples de foi à tout âge, même étant jeune. Et ça devrait être le cas. Si nous revenons maintenant dans Tite, encore une fois, nous allons voir ce qui est dit au jeune homme, jeune Jean. Verset 6. exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. De nous. Chacun de nous apporte notre part à la réputation de l'Église. C'est bon pour nous de poser la question, comment est-ce que j'affecte la réputation de l'Église? Les gens qui me voient, qui me côtoient, est-ce que j'ajoute quelque chose de positif? Est-ce que je retire quelque chose de positif? Nous, aucun mal de nous. Ce qui est dit pour les jeunes gens, c'est qu'ils doivent être modérés. Et ça, c'est souvent un point faible pour les jeunes hommes. Modérés, la version Darby dit « sobre ». La version synodale dit « vivre dans la tempérance ». La version Crampon dit « être pondéré, réfléchi en tout ». C'est souvent un point faible au jeune homme d'agir sans penser suffisamment auparavant. Nous devons faire preuve de modération dans nos activités, ni trop peu, ni trop extravagant dans ce que nous faisons. Les jeunes hommes peuvent avoir tendance d'agir sur un coup de tête, sans trop réfléchir, sans toujours se maîtriser. Alors le point qui est souligné pour les jeunes hommes, c'est d'être équilibré et retenu. Modéré, modération. Dans Genèse chapitre 41, nous avons un bon exemple d'un jeune homme, relativement jeune du moins, Genèse 41. Verset 14, nous entrons au milieu de l'histoire de Joseph, il est en prison en Égypte et il explique les songes. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, verset 14 de Genèse 41. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et il explique le songe. Et puis, il se permet de donner un bon conseil après avoir expliqué les années de vaches grasses et des années de vaches maigres. Il dit au verset 34, « Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. » Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Et si nous lisons le verset 46, verset 46, Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Déjà à 30 ans, il avait acquis beaucoup de sagesse, de savoir-faire. Il savait se comporter. Il savait se présenter devant quelqu'un d'important. Il savait attendre le bon moment pour parler. Il n'a pas agi sur un coup de tête. Il a fait preuve de patience, de la maîtrise de soi dans les années précédentes qu'il avait passées en prison, les différentes tentations qu'il devait affronter. Il était un bon exemple dans sa jeunesse et Dieu l'a élevé d'être au plus haut niveau en Égypte. Et c'est possible pour des jeunes hommes aussi, tout comme pour les jeunes femmes, de montrer un excellent exemple. Et ça peut être très frappant pour ceux qui voient ces exemples-là, parce que c'est de plus en plus rare dans les jeunes générations. Regardons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Il y a un passage d'encouragement pour les jeunes gens. 1 Jean chapitre 2, verset 14. 1 Jean chapitre 2, verset 14, « Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Les jeunes gens à qui Jean écrivait ici, s'étaient déjà montrés forts spirituellement, forts dans la foi, de très bons exemples. Il ne faut pas attendre quand on est jeune pour dire « je serai sage quand je serai plus âgé, maintenant je peux me défouler ». Déjà étant jeune, nous pouvons être exemplaires aux yeux de ceux qui nous entourent et aux yeux de Dieu. Et nous avons des instructions pour le ministère également, et en fait ce sont des choses que nous devrions tous chercher à accomplir, à atteindre. Tite chapitre 2, verset 7. Paul a dit à Tite, « Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » Ça, c'est applicable à tout le monde. Nous devons pratiquer autour de nous de bonnes œuvres. Si nous sommes chargés de donner un enseignement, il faut que ce soit un enseignement pur et digne. Si jamais nous avons la possibilité de prononcer une sermonnette ou d'expliquer quelque chose aux autres, nous pouvons donner un enseignement pur, digne. Nous pouvons tous avoir une parole saine, irréprochable. On ne peut pas nous reprocher à cause de ce que nous aurions dit, afin que l'adversaire soit confus. Celui qui accuse les frères, nous pouvons le mettre dans la confusion. S'il ne trouve que peu de choses pour lesquelles il peut nous accuser. N'ayons aucun mal à dire de nous. Encore une fois, l'exemple de chacun contribue à la réputation de l'Église dans son ensemble. Quand tous ces éléments sont présents, cela donne un tableau frappant d'unité et d'harmonie entre les différentes générations, les différentes situations de vie parmi les membres de l'Église de Dieu. C'est un tableau qui est différent de ce qui se passe souvent dans notre monde qui part à la dérive, dans notre monde de confusion, de plus en plus confus. J'habitais dans mon enfance dans une région où il faisait très froid en hiver et où il y avait beaucoup de neige. Il fallait saler les routes pour faire fondre la glace et cela salissait les voitures. Les voitures devenaient très sales et ça valait pas la peine vraiment de les laver pendant tout l'hiver parce qu'elles redeviendraient sales le jour même, à chaque fois qu'on sortait. Les voitures se ressemblaient toutes. On ne le remarquait même pas parce que toutes les voitures étaient sales. Mais au printemps, au premier redoux, il y avait toujours quelqu'un qui lavait sa voiture avant les autres. Et là, ça s'est remarqué. Wow, il y a une voiture qui est rouge, une voiture verte, pas noire et blanc comme toutes les autres voitures sales. Du coup, il y avait une grande différence, c'était très voyant et très visible. On voyait toute accumulation de saleté sur les autres voitures. C'était exemplaire. Nos vies, frères et sœurs, devraient être comme cette voiture qui était lavée avant les autres, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas que nous l'ayons fait, c'est Dieu qui l'a fait dans nos vies. Mais nous devrions trancher avec ce que l'on voit autour de nous. Terminons avec 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Nous avons tous notre rôle à jouer. Nous avons tous des responsabilités. Nous avons tous des choses à apporter à l'Église et à sa réputation. Les passages que nous avons vus aujourd'hui nous encouragent à réfléchir sur le rôle que nous avons à jouer dans le corps de Christ. J'aimerais nous encourager tous de demander personnellement l'aide de Dieu qui nous aide à remplir notre rôle individuellement pour que le corps puisse être en bonne santé spirituelle. Si chacun fait sa part, cela fera avancer l'œuvre de Dieu et cela donnera un exemple à l'Église encore plus frappant. Bon sabbat, frères et sœurs.